Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Le réseau social Twitter, bon, qui depuis un certain temps avait annoncé qu'il veut faire du ménage, mais qui, le fait progressivement. Et là, maintenant, veut s'attaquer, compte tenu de l'importance des campagnes de vaccination, à tous ceux qui font circuler des fausses informations concernant les vaccins. J'en ai vu encore hier des gens qui racontaient des histoires que dans un pays quelconque, les vaccins, après la campagne de vaccination, il y a eu plein de morts et tout ça.
Ben oui, parce que dans la mesure où on va avoir des doses, énormément de doses, le problème, ça va être de convaincre ceux qui n'en veulent pas à recevoir.
Jean-Christophe Boucher, professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary, fait partie d'une équipe de chercheurs qui s'est lancée dans un projet très ambitieux sur la question. Jean-Christophe Boucher, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous voulez essayer de cartographier, de ramasser, répertorier toute la désinformation qui circule au sujet des vaccins.
Oui, ça c'est une bonne façon de résumer le projet. Dans les faits, les autorités de la santé publique en Alberta nous ont approché l'École de politique publique pour dire nous, on essaie de faire une campagne d'information sur les médias sociaux, de combattre la désinformation sur les vaccins, mais également de promouvoir les vaccins à d'autres groupes et d'autres personnes. Et donc, ils sont venus voir pour dire est-ce que vous pouvez faire ça? Et on a commencé, dans le fond, à partir de l'été, de collecter toute une grande partie des interactions sur les médias sociaux. On collige en ce moment près de 10 millions de tweets par semaine. Et après ça, on est capable de cartographier les réseaux.
Quand vous dites le mot cartographier, ça veut dire une carte dans le sens de trouver d'où est-ce qu'ils viennent géographiquement ou cartographier plus dans le sens de quel genre de milieu
intéressant. Nous, la façon qu'on le fait, c'est avec de l'analyse de réseau, c'est-à-dire qu'on est capable de répertorier les interactions que les gens ont sur les médias sociaux et on construit essentiellement une carte de réseau. Et on fait ça, par exemple, avec les retweets, c'est-à-dire que statistiquement, les gens ont tendance à retweeter les choses qu'ils acceptent ou les gens avec qui ils interagissent davantage. Et ce comportement-là, on peut le quantifier et après ça, on peut vraiment analyser, aller voir qui sont les gens avec qui ils interagissent le plus. D'une certaine façon, on regarde les amis des gens et on est capable de savoir où ils se positionnent sur l'environnement des réseaux sociaux. Et en fait, on le fait vraiment sur des graphiques. On est capable de le voir. Je peux dire exactement telle personne, telle date, telle pour telle raison.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Twitter? Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver? Ils ont déjà commencé à le faire, mais qu'ils vont y arriver? Parce que bon, en même temps, on dit les gens ont le droit à leur opinion. Une personne a le droit de dire, ben c'est mon corps, puis moi j'en veux pas de vaccin, peu importe mes raisons. Mais de l'autre côté, on voit des gens, je le mentionnais tout à l'heure, des gens qui font circuler des histoires complètement fausses que après la campagne de vaccination dans tel pays, il y a eu plein de morts, alors que c'est vérifiable, que c'est pas arrivé, c'est faux. Comment on sépare la circulation de fausseté de l'expression d'opinion qu'on a le droit d'exprimer, là?
Ouais, le bon grain de livret. C'est une question qui est vraiment difficile à répondre. Nous, on a commencé à colliger, dans le fond, à collectionner ces données-là pendant l'été. Et on était capable de regarder, d'une part, les mouvements anti-vaccins, c'est international. Et donc, quand on pense en termes de d'interaction. Nous, par exemple, au Québec, on voit énormément de comptes français qui sont redirigés vers le Québec et qui dans le fond, qui naviguent, qui circulent au Québec. Puis on voit la même chose chez les anglophones avec des comptes aux États-Unis, tout ça. Et pendant tout l'automne 2020, on voyait vraiment des gros comptes qui avaient des centaines de milliers de gens qui les suivaient, qui vraiment poussaient une narrative plus anti-vaccin. Et autour de janvier, mi-janvier, Twitter s'est attaqué directement à ça. En fait, on a vu vraiment une baisse significative de l'ensemble de ces comptes.
Mais qui en circulent beaucoup moins, là.
Oui, ça circule beaucoup moins. Ce que l'on voit maintenant en ce moment, c'est que la majorité des anti-vaccins aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est beaucoup des commentateurs politiques. Et là, on arrive vraiment à cette mince différence, distinction entre être anti-vaccin et être pro-liberté. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et en ce moment, on voit pas, Twitter essaie vraiment d'aller chercher les anti-vaccins et pas les commentateurs politiques. Et ça devient vraiment un enjeu très important. Un bon exemple de ça, Robert Kennedy Jr. Vient juste d'être déplatformé de Facebook et Instagram, qui sont en fait la même compagnie, mais pas sur Twitter. Et c'est vraiment quelqu'un qui navigue vraiment entre les deux, là, entre le monde politique, le monde de l'opinion, mais également, il promeut beaucoup un commentaire anti-vaccin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à s'attaquer beaucoup à les gens qui travaillent, aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Et donc, nous, par exemple, on est capable vraiment d'identifier les comptes des médecins, des infirmières qui sont sur les médias sociaux. Et on est capable de voir leur impact tant chez les pro-vaccins que chez les anti-vaccins. Et chez les anti-vaccins, les quelques comptes de personnel de la santé qui sont anti-vaccins sont retweetés vraiment beaucoup plus. Et Twitter, en ce moment, commence à aller chercher ça, à dire, ben, si vous êtes oncologue puis vous avez des opinions sur les vaccins, il y a comme un problème même de transparence. Ouais.
Une des questions qui m'intéresse, là, on sait qu'il y avait des gens qui étaient anti-vaccins là, contre tous les vaccins, là, contre la rougeole, oui. N'importe quel vaccin de base qu'on donne aux enfants, qui ont éradiqué, qui ont fait disparaître ni plus ni moins des maladies au complet de certains pays, de la plupart des pays. Est-ce qu'il y a un mouvement vaccin anti-vaccin spécial COVID là? C'est-à-dire que oui, hein, c'est ça, il y a des gens qui étaient pas anti-vaccins, même dans le réseau de la santé, des gens qui ont cru certaines des histoires particulières, comme si le vaccin de la COVID avait un statut particulier des autres vaccins là.
Oui, en fait, on avait déjà commencé un projet sur le HPV et on essayait de justement comprendre les anti-vaccins chez le HPV. Et quand la COVID est arrivée, dans le fond, on avait déjà un projet sur le HPV qui roulait. Et donc, ça nous a permis de
comparer. HPV, ça, c'est le vaccin contre le papillome humain, c'est ça?
Exactement, oui. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que, d'une part, beaucoup des anti-vaccins COVID étaient des anti-vaccins HPV. Et donc, ils ont été déplatformés en même temps. Mais lorsqu'on commence à comparer les narratives, lorsqu'on commence à comparer les façons dont les gens vraiment s'adressent au vaccin, c'est un peu différent. Dans une large mesure, les anti-vaccins ont à peu près deux gros arguments contre le vaccin. Soit que le vaccin n'est pas sécuritaire, et ils ont peur des effets secondaires, ou soit que le vaccin n'est pas efficace. Et dans une large mesure, c'est toujours ces deux raisons-là qui motivent les gens d'être anti-vaccin. À la COVID, ce que l'on voit pour la COVID, c'est qu'il y a comme une troisième dimension à ça, c'est que beaucoup de gens, énormément, quelque chose comme genre 40% des tweets, qui sont plutôt une narrative anti-institution, anti-gouvernement. Et là, vraiment...
En fait, mais qui est basé, est-ce qu'ils sont anti-vaccin, mais en fait, est-ce qu'ils sont pas au départ... dans une théorie complotiste à propos du virus lui-même, là. Le vaccin ne serait le virus n'existant pas réellement étant été une invention pour justifier que ça prendrait un vaccin, pour justifier que le vaccin et tout ça aurait pour but de nous contrôler soi-disant, là, un virus, un vaccin, etc. Là.
Il y a ça, il y a vraiment ça. Il y a aussi tous ceux qui disent ben le gouvernement Trudeau essaie d'utiliser la COVID pour mettre de la pour enchasser ou limiter nos libertés. Et donc, il y a comme le anti-masque, anti-vaccin. Il y a vraiment ce côté-là qui est assez intéressant.
Mais ça, c'est débile. Excusez-moi, parce qu'hier, j'ai fait une montée de lait là-dessus à l'émission. Les gens qui sont anti-masque et anti-vaccin, à un certain point, parce qu'ils oublient ce qu'ils ont dit la veille, là. Parce que si t'es contre les mesures restrictives, les mesures sanitaires, parce que ça t'énerve, on t'oblige à porter un masque, on t'empêche de sortir, le couvre-feu, puis tout ça, tu devrais être pro-vaccin à 1000% pour dire, ben là, on prend le vaccin, puis après ça, sacrez-nous patience, enlevez-nous toutes les autres mesures. Là, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils sont un peu contre tout, là. Je veux dire, tout ce qui vient d'en haut.
Contre-dépendant, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est vrai, ça. Puis on le voit. Puis, mais c'est aussi, la COVID aussi se fait, toute l'ensemble de la COVID, la crise de la COVID, se fait aussi sur un fond de polarisation, de partisanerie aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Europe. Et donc, ça dépasse vraiment, en fait, ça dépasse vraiment juste le domaine de la politique de la santé qui étaient les autres vaccins. Et là, ça devient vraiment des questions de société à grande échelle. C'est-à-dire, est-ce que les gouvernements ont le droit de légiférer sur le vaccin? On voit également, par exemple, des gens qui font des liens entre les pharmaceutiques, entre les compagnies d'aviation. Certaines compagnies d'aviation ont dit, par exemple, vous allez devoir nous présenter un passeport vaccin pour faire le vol international. Et ça, sur les médias sociaux, ça a monté. Et les gens sont vraiment... ce manque de confiance dans les institutions politiques qui sont tant chez les pharmaceutiques que chez les... Et ça mine, dans le fond, l'ensemble de la conversation sur la COVID. Et là, les gens, ils disent, ben moi, je me fais pas vacciner parce que j'ai pas confiance dans le gouvernement.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment bizarre. Oui, moi aussi, je me dis, ben tant qu'à ça, si on n'aime pas les masques, fais-toi vacciner, puis promène-toi, puis comme ça va être bien. Mais c'est vraiment... Et dans certains cas, il y a certains groupes qui ont raison, c'est-à-dire qu'ils ont une relation et une histoire de relation avec les institutions, disons, politiques qui sont difficiles. Par exemple, aux États-Unis, on voit que la population... afro-américaine, elle est statistiquement moins favorable au vaccin à la COVID. Et ça a vraiment un lien avec le manque de confiance. Oui, c'est ça. Plus méfiante, ça a un lien avec le manque de confiance dans les institutions politiques aux États-Unis. Et là, on voit vraiment que certains groupes ont vraiment un problème qui est très différent. Ce qui rend vraiment tout l'ensemble de la question de la désinformation un peu difficile à faire, parce que dans certains cas, c'est pas vraiment de la désinformation, plutôt que une crise de confiance dans les institutions politiques et publiques, puis on doit s'attaquer à ça. Et d'une certaine façon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens mettent l'accent sur la désinformation. Si on coupe toutes les comptes Twitter d'anti-vaccins, on va avoir une meilleure réponse. Puis c'est pas clair que ça c'est vrai. C'est pour ça que nous, dans le projet, et la façon qu'on interagit avec les autorités de la santé publique en Alberta et au Canada, c'est vraiment de leur dire, ben, vous devez avoir une campagne de communication qui met l'accent sur les anti-vaccins, mais également qui met l'accent sur les pro-vaccins, et de comprendre la façon dont les gens comprennent et cadrent ces questions-là pour justement vous adresser à leurs problèmes spécifiques sans envenimer les choses. Une des choses, par exemple, qu'on se rendait compte, c'est que chez les anti-vaccins, c'est vraiment une question qui est enchâssée dans l'émotion, dans l'affectif. Les gens ont peur. Et d'une certaine façon, d'essayer de leur donner plus d'informations, ben là, voyons donc, t'as pas à avoir peur, 3,4% de trucs machin. Dans le fond, ça, c'est des relations de communication qui fonctionnent pas très bien chez certains.
Mais il semble que ce qui fonctionne le plus, c'est juste à un moment donné de se rendre compte que... Mais regarde, ton voisin est vacciné, puis il est retourné faire son épicerie le surlendemain avec son même vieux chandail bleu qu'avant, puis tu sais, il y a pas de corne dans le front, il y a rien poussé nulle part, il est juste protégé contre la COVID, là, tu sais. Mais c'est ça, en bout de ligne, la démonstration la plus simple, c'est la démonstration du grand nom. Peu importe ce que tu pourrais publier, dire, ça vient du gouvernement, on va finir sans s'en méfier, c'est la démonstration du grand nombre, puis qu'il leur arrive à rien, ils sont juste protégés de la COVID, mais c'est ça qui finit par être la démonstration.
Moi, je le vois différemment. Moi, ce que je pense qui va arriver, justement, c'est que les gens vont faire le switch inverse, c'est-à-dire qu'ils vont voir leurs voisins se promener, puis ils vont voir que les cas de la COVID vont descendre, puis ils vont dire, tu vois, j'avais pas besoin de me faire vacciner, c'est parti tout seul. Et j'ai l'impression qu'on va comme confirmer leur biais, dans le fond, juste par la façon dont ils concevaient le problème.
Ouais. Comme quoi, avec les complotistes, on gagne jamais. Quand 80% de la population va être vaccinée, ça va faire disparaître le virus. Vous avez probablement raison. Ils vont dire, ben garde, j'ai pas besoin de me faire vacciner. Hey, merci d'avoir été là.
Oui,
Jean-Christophe Boucher, professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary.